Une série sur Élie, l'homme des extrêmes. Donc le prophète Élie, l'homme des extrêmes. C'est un homme qu'on va découvrir. Parfois on le trouve très haut, parfois on le trouve très bas. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah, ça c'est moi, ça c'est moi. Et ben voilà, il y a de l'espérance. Surtout quand je lis dans Jacques 5, 17, où il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Regardez dans le miroir et vous voyez Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'est le produit. L'argile, quand le potier a pris l'argile et l'a mis sur son tour. Et puis la deuxième partie, c'est l'objet final. La première, quand il a trouvé, c'est un homme de même nature que nous. Quand il a terminé, c'était un homme qui savait prier avec instance et qui a obtenu ce qu'il demandait. Entre les deux, alors là, il y a tout un travail. Mais bon, c'est pour, si on va voir cela, c'est pour nous rassurer aussi, hein. Que le Seigneur peut nous prendre, peu importe comment vous vous voyez et comment vous vous voyez à la lumière de l'Écriture, et puis alors après ce que le Seigneur peut faire. Donc pour cela, alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui l'argile entre les mains du grand potier. C'est Dieu va prendre cette motte d'argile avec les saletés qui se trouvent dedans, et puis il va en faire quelque chose, un vase pour la prière. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Alors, vous allez dans l'Ancien Testament et vous allez trouver un de Samuel, un de Roi et un de Chronique. Alors, c'est 1 Roi, chapitre 17. Il y a 3 parties là, il y a 3 choses qui se passent dans ce chapitre et avec le temps qui nous reste, on va voir ces 3 étapes. En fait, ce sont 3 étapes dans la formation d'Élie pour l'amener au point où il peut prier sur le mont Carmel. Donc, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, donc qui est le roi d'Israël, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. L'histoire, je n'ai pas besoin d'expliquer, hein, vous voyez ça? Mais ce que nous voulons voir, ce n'est pas l'histoire, mais c'est voir Dieu. Qui travaille avec un homme. Tout d'un coup, là, Élie apparaît de nulle part. Hein. C'est tout d'un coup, hein, on voit Élie. Mais à partir de ce moment-là, il va apparaître, réapparaître à différents moments des Écritures, jusqu'à dans le Nouveau Testament. Hein. Même il sera sur la montagne avec Moïse et Jésus sur la montagne de Transfiguration. Hein. Donc, Élie, il apparaît là, mais tout d'un coup. Mais après, ça devient un grand homme. Hein, c'est un monument dans l'Écriture. Et Akab, eh bien, c'est le roi d'Israël, du royaume du Nord. Et lui, eh bien, parce qu'il a épousé Jézabel, qui vient du Nord d'Israël, et il va instaurer l'adoration du dieu Baal. Et il va l'imposer. Il va vouloir écarter Dieu et qu'il y ait le dieu Baal. Il voulait que tout le monde s'éloigne de l'Éternel. Voilà. Après, il nous dit que Élie était Tishbite, donc il venait de la ville de Tishbé, dans Galate, donc de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie. Mais sinon, on ne sait même pas, on n'a jamais entendu parler de Tishbé, on ne sait pas d'où c'est, ni rien du tout. Il sort de, vraiment, il sort de nulle part, hein, de un petit quelque village, un bourg, je ne sais pas, mais il vient de là. Et mais certainement que sa famille, eh bien, elle n'a pas adhéré à l'adoration de Baal, vu le nom qu'il lui donne. Le nom Élie veut dire Jéhovah est mon Dieu. Il n'y a pas plus clair, hein, ça c'est une confession de foi, ça. Il lui donne le nom Jéhovah, c'est mon Dieu. Donc c'est une manière de dire Baal, je ne connais pas. Donc c'était certainement une famille qui voulait se déclarer et qui ont affirmé leur foi en l'Éternel Dieu. Et certainement qu'ils ont élevé leur fils sous l'écoute de la parole, fidèlement, selon Deutéronome chapitre 6, hein, tu enseigneras, tu inculqueras à tes enfants la parole. Et cette parole est là dans son cœur, il le comprend. Et tout d'un coup, on a ce verset, ce Akab, la première parole qu'il dit, il arrive devant Akab, je veux dire, Élie arrive devant Akab, et qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura point de pluie ni de rosée, sinon sur ma parole. D'où ça sort ? Parce que ça ne dit même pas que l'Éternel lui a dit d'aller le faire. C'est lui qui prend, on a presque l'impression que c'est lui qui prend l'initiative et qui se présente et dit, écoute, Akab, ça va pas. Eh bien, il n'y aura plus de pluie. Et on dit, tu prends pour qui ? Oh, c'est, attention, parce que, comme je viens de dire, il connaissait la parole, il connaissait l'écriture, et certainement qu'il se souvenait que Deutéronome 11, versets 16 à 17, et je vais vous le lire, il a lu cette parole, « Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aura plus de pluie, la terre ne donnera plus de produits et vous périrez promptement dans le pays dont l'Éternel vous donne. » Dieu a dit, il a dit, si vous vous éloignez de Dieu, vous l'abandonnez, ben le ciel tout d'un coup ça devient de l'airain, plus de pluie. Et Élie devait avoir une telle confiance dans la parole de Dieu qui a été donnée par Moïse, il s'est dit, ça sera comme ça. Donc il a été voir Élie, il a dit, écoute, vu ce que tu fais, il n'y aura plus de pluie. C'est basé sur une ferme confiance en la parole de Dieu. Donc ce n'était pas une initiative personnelle où il s'est pris pour quelqu'un. Non, non, c'est il avait une confiance en la parole de Dieu. Et là, c'est déjà quelque chose de très bien. Hein, si, avoir ça, le Seigneur peut faire de grandes choses avec celui qui a cette conviction que la Bible est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit, moi je me sers toujours de la parole de Christ. Hein, et donc il a dit, si toi tu as cette confiance et tu es prêt à adhérer à ce que Dieu dit, là moi je peux aller très loin avec toi. Et c'est là que ça commence et c'est comme ça que Élie apparaît. Et là, tout de suite, tu as exprimé cette confiance à ma parole, eh bien, moi, je vais travailler. Alors, ce que tu vas faire, tu vas aller te cacher au torrent de Kirit. Et là encore, on ne sait pas où c'est. Ça devait être un coin, parce que lui, apparemment, lui, il savait où c'est. Hein. Et l'Éternel l'envoie là-bas. Il n'avait pas besoin de lui donner une carte, hein, ni un GPS. Il savait où c'était. Il y va. Mais il savait aussi... Mais, attends, je viens de dire qu'il n'y aura pas de pluie. Et puis après, il me met près d'un torrent. Pas une source, mais d'un torrent. Le torrent a besoin de pluie. Et puis après, et deuxièmement, il dit, et c'est des corbeaux qui vont te nourrir. Il n'y a pas autre chose. Hein, et, bon, on n'a pas sans hein, les corbeaux, avec tous mes respects, mais il n'est pas sûr d'en vouloir manger dans la même gamelle que les corbeaux. Hein. Et c'est comme ça qu'il l'envoie. Il dit, voilà, j'enverrai les corbeaux qui viendront te nourrir. Il éprouve sa foi. Il éprouve sa confiance. Il dit, tu vas te cacher là-bas, ce sera très bien. Et Élie, Dieu va le nourrir. Hein, c'est ça qui est marqué, il l'a nourri. Et les corbeaux ont fait ce que peut-être qui n'était pas naturel pour eux, mais ils ont été chercher du pain, ils ont été de la nourriture, et ils l'ont apporté matin et soir. Et Dieu a honoré celui qui l'honore. Hein. Jésus, Dieu a dit ça à Élie, le sacrificateur, il a dit, écoute, j'honore ceux qui m'honorent. Et Dieu l'a honoré. Et Élie est là. Achab, certainement, lui, quand il a entendu Élie, il dit, mais celui-là, d'où il sort? Parce qu'il n'était pas, il n'avait pas encore une réputation de prophète, il n'avait pas... Et peut-être Achab, il s'est dit, mais c'est un... Bon, il y a des fous, hein, et puis bon, c'est, voilà. Mais au fur et à mesure que la sécheresse s'installe, lui, il commence à se dire, mais bon, ce Élie, attends, il faudrait que je le trouve. Hein. Et il nous dit même, parce qu'Abdias, au début du chapitre 18, Abdias le dira, au verset 10 du chapitre 18, il dit, l'Éternel est vivant, il n'est pas nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand il disait que tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'il ne t'avait pas trouvé. Et là, finalement, il s'est rendu, mais c'est le gars, il était sérieux. Il a dit que ça ne viendra pas tant que je le dise pas. Il dit, il faut que je le trouve. Achab, et il le cherche partout. Et là, Élie est tout prêt. Mais vous pouvez imaginer, le Seigneur, il a des idées. Parce que qui aurait pensé de voir, bah tiens, je remarque qu'il y a des corbeaux là, qui vont par là le matin, puis qui vont là le soir. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir là-bas? Vous savez, quand c'est des corbeaux, on ne suit pas, hein, on ne cherche pas la vie là-bas. Et c'était fait de manière à ce qu'il était protégé, gardé. Et impossible de trouver, personne ne pouvait même le trahir, personne ne savait qu'il était là. Dieu avait bien fait les choses. Jusqu'au moindre détail. Mais, vous savez, c'était embêtant aussi pour Achab. Je viens de vous dire qu'il voulait introduire la divinité Baal à Israël. Et c'était le dieu de la fécondité. Donc, c'était le dieu qui garantissait la pluie. Ah, ça tombe bien, il était embêté hein, dans cette situation-là. Je vous présente le dieu qui va nous donner... l'abondance, les moissons et tout cela. Et puis ça ne marche pas. Vous savez, Dieu, je trouve ça extraordinaire. Dieu, il n'a pas besoin de faire des grandes catastrophes. Et puis, non, discrètement, il arrive à faire et dire ce qu'il a à dire. Et donc, Baal, Achab cherche Élie partout. Arrive le jour, à cause de la sécheresse, il n'y a plus d'eau dans le torrent. C'est intéressant que Dieu le laisse là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pluie. Il ne lui dit pas ce qui va y après. Rappelez-vous, ce n'est pas pour embêter, c'est la formation. Et la foi, c'est une confiance que quand il faudra, je saurai. Et c'est une formation, et ne soyez pas étonnés, si lorsque vous êtes passé dans une épreuve où il faut attendre jusqu'à la dernière minute, et puis, je ne vais pas prendre le temps, mais je pourrais vous raconter quelques histoires où j'ai dû attendre jusqu'à la dernière minute. Il a essayé d'attendre jusqu'à ce que j'ai plus de foi. Hein. Jusqu'à la dernière minute, et je dis, Seigneur, mais il n'y a plus rien, c'est plus possible. Et puis tout d'un coup, il intervient. Alors, c'était la formation. Il me rappelait que moi aussi, j'avais besoin d'apprendre ce que c'est que faire confiance jusqu'à la fin. Et Dieu attend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans le torrent. Et là, Dieu parle. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est que quand on a besoin, il est pas en retard. Il vient pas à l'avance, comme certains dans l'Église. Et il vient pas en retard non plus, comme certains. Il est au moment précis. Je dis ça en passant. Hein. Voilà, c'était gratuit. Et alors, on arrive au verset 8. Hein, du chapitre 17, 1 Roi chapitre 8, chapitre 17, verset 8, il dit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve, de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher de l'eau, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Mais l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois que je... Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Imaginez-vous, Seigneur, il vous donne une adresse. Vous arrivez à l'adresse qui doit vous nourrir. Et vous regardez dans le frigo, il n'y a rien. Et le gars, il dit, et puis mon compte en banque, il est vide aussi. Et j'ai plus d'amis. Alors, on fait comment ? Dieu, c'est qui tu avais dit ? Mais en plus, il y a un détail supplémentaire ici, c'est que c'est Sarepta. Et Sarepta se trouve dans le territoire duquel vient Jézabel, la femme d'Akab. Et il va le mettre dans son jardin. Et vous savez, Dieu est quand même extraordinaire comment il fait les choses. Et là, mais comprenez que ici, c'est formation, c'est étape numéro 2, et Dieu le met encore dans une situation d'épreuve. Il pourvoit, mais il le met dans cette situation. Et il éprouve sa foi. Vous dites, mais bon, il n'y a, a rien, que faire croire en quoi, faire foi, en quoi? Il y a une poignée de farine, deux gouttes d'huile. Et puis, comment on fait ? Et alors, c'est là où la foi intervient et il dit, Dieu ne peut pas se tromper. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose ici. Il dit, écoute, madame, écoutez, vous allez me prendre la farine qu'il y a et tout ça, vous me préparez quelque chose. Et après, le Seigneur pourvoit vous, parce qu'il aura besoin de vous pour demain. Donc, vous n'allez pas mourir, vous n'en faites pas. Vous n'allez pas mourir, il y en aura pour vous. Puis après, on continue comme ça. Vous savez, la foi, quand on ne doute pas de Dieu, on cherche d'autres solutions, hein, d'autres options. Ah, c'est plus l'intellectuel. Hein, là, c'est une question de confiance. Il dit, il m'a envoyé là, je sais qu'il m'a envoyé là. J'ai trouvé la dame. Et elle est bien disposée envers moi parce que elle dit l'Éternel ton Dieu, hein, donc elle a reconnu que c'était son Dieu, c'est quelqu'un qui a un respect pour Dieu. Donc il est à la bonne adresse, il a tout. Il dit ben moi Dieu, faut qu'il fasse un miracle, c'est tout, il n'y a pas d'autre issue. Vous savez, ça, c'est un peu ce que la manière dont Abraham a fait, hein, quand il fallait offrir son fils, il dit mais bon. Il y a une contradiction là, parce que le fils, c'est le fils de la promesse, et puis il me demande de l'offrir. Et bien il nous dit en hébreu, c'est par la foi qu'il s'est dit, ben, il faut que Dieu le ressuscite, hein, il n'y a pas d'autre issue. Hein. Moi, je fais ce qu'il m'a dit de faire, et puis et lui, il doit y avoir une autre issue, il va le ressusciter ou quelque chose. Et il avait confiance, et il a été. Vous savez, c'est ça, et là, Dieu est en train de préparer Élie, il est en train de donner de la forme à sa foi, hein, ce n'est pas juste un mot. Mais il dit, Élie, il passe l'examen, là. Il dit, écoutez, madame, préparez quelque chose pour moi. Ce n'est pas une question d'égoïsme, commencez par moi, puis après on verra pour vous. Non, c'est un acte de foi. Écoutez, madame aussi, il faudra que vous fassiez confiance un peu à Dieu aussi. Donc vous faites d'abord pour moi, puis après il y en aura pour vous, et puis on aura besoin de l'un de l'autre. Alors, moi j'aurai besoin de vous, vous aurez besoin de moi, et c'est comme ça que Dieu va pourvoir. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et alors, comme je continue à lire là, verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, il y eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Et la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà, tout se passe bien, vous me faites confiance, et ça se passera bien. Et Élie est là, caché, dans un endroit où on ne le chercherait pas. Et Dieu prend soin. Mais la question, c'est... Bon, Dieu aurait pu cacher n'importe où, hein. Mais la question, il est en train de former son homme. Et c'est extraordinaire comment Dieu travaille sur plusieurs plans. Donc, il est en train de travailler à Israël pour leur dire, écoutez, vous avez besoin de revenir à moi. Laissez tomber ce Baal, il ne vous apporte rien du tout. Et puis, et en même temps, il est en train de travailler avec son serviteur et le faire grandir. On continue. Dans le verset 17, là, c'est chapitre 3. Et ça devient encore plus compliqué. Vous savez, en général... Ceux qui sont élèves, ils savent que chaque année, c'est un peu plus difficile. Mais il faut réussir la première année pour pouvoir faire la deuxième. Et là, le Seigneur avance et progresse. Il y a des gens, hein, comme disait... je trouverai son nom plus tard. Mais disait, vous savez, il y a des gens, ils disent, « Oh, moi j'ai 10 ans de vie dans l'Église. » 10 ans de vie chrétienne. Il dit non, tu as répété la première année depuis 10 ans. Tu n'as pas avancé. Tu es toujours là au même point. Là, Élie est en train d'avancer. Il a fait confiance au Seigneur et il avance. Parce que l'étape, on voit que quand l'épreuve devient plus grande, c'est un bon signe. C'est un signe qu'on a réussi le dernier et on continue. Donc là, Élie se trouve chez cette femme, Sarepta, et tout se passe bien, elle va vivre, et lui va vivre. Verset 17, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alors là, Seigneur, voilà, la femme, elle fait que du bien, et puis toi, tu les tues son fils, que tu as sauvé. Il allait mourir, si je n'étais pas venu, il allait mourir, mais là, tu le fais mourir, tu le laisses mourir. Et puis après, Élie, il se trouve, cette femme qui a une parole, c'est un peu normal, une maman, hein, on connaît les mamans, et verset 18, cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ?» Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mes iniquités et faire mourir mon fils? Vous savez, elle a réagi comme beaucoup réagissent. Ils pensent que dès qu'ils ont un malheur, c'est une punition de Dieu. C'est pas le cas. Jésus a été puni pour notre péché. Nous, parfois, on vit avec les conséquences de nos bêtises, mais ça, c'est autre chose. Mais Dieu, c'est pas une punition. Dieu est en train de préparer une épreuve. Et Dieu sait ce qu'il fait. Mais cette femme, elle a quand même, avec ça, ça éveille la conscience, elle a quelque chose sur la conscience. On ne sait jamais, on ne sait pas ce que c'était, mais elle dit, mais tu es venu pour me rappeler mes péchés passés. Élie, il prend même pas le sujet. Il touche pas. Mais quand même, il dit, faut que j'aille vous parler au Seigneur. C'est une bonne chose à faire, vous savez. Quand on comprend plus, eh ben, je vais en parler au Seigneur. Il prend l'enfant dans ses bras. Donc, imaginez l'âge que doit avoir l'enfant. Même s'il est malade depuis quelque temps, il a perdu du poids, mais quand même, hein, il le prend dans ses bras. Il monte sur la terrasse, c'est sa chambre, là-haut. Et puis, je lis verset 19, il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, il monta dans la chambre haute et où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été comme un hôte ?» Il dit, « Mais Seigneur, je ne comprends pas, est-ce que tu peux pas faire ça. Elle m'a bien reçu, elle fait confiance, elle a exercé de la foi et tout. Tu ne vas pas lui faire ça. » Il a dit ce qu'il avait dans son cœur. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Quand on ne comprend pas, on le dit. Ce n'est pas la peine d'aller faire semblant d'être un grand croyant, tout ça. Écoutez, si vous sentez ras des pâquerettes, eh ben, priez comme une personne qui se trouve au ras des pâquerettes. Il n'y a pas de problème. Et il dit, là, Seigneur, je ne comprends pas. Ça se passait bien. Pourquoi elle? Encore, tu es en train de faire ma formation, pourquoi est-ce qu'elle doit souffrir? Et vous savez ce qu'il va demander? Il dit, Seigneur, rends l'âme à cet enfant. D'où est-ce qu'il a eu cette idée? Il y a rien, vous lisez toute la Bible jusque-là, et il n'y a aucune résurrection. Il ne savait pas que ça existe, que c'était possible, ni rien du tout. Mais il ne voyait pas d'autre solution. C'est tout. Ben, on peut, demander à Dieu des choses impossibles, mais il dit, mais Dieu, ça, c'est pas comme ça. Et il demande, et il prie, hein, et là il faut insister, hein, il va prier plusieurs fois. Et puis le Seigneur a répondu. Et Élie prend, verset 23, Élie prit l'enfant, descendu de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme, vous voyez maintenant, il y a un travail chez la femme. Et la femme répond, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche en vérité. » La parole de l'Éternel dans la bouche est vérité. Il dit, alors elle fait un pas aussi. Elle dit, oui, j'ai fait confiance et tout ça, mais là, c'est un peu comme Job, hein, vous connaissez l'histoire de Job. Il a la grande épreuve qu'on trouve dans les chapitres 1 et 2, l'épreuve terrible. Après, il passe un temps, je ne sais pas combien de temps il passe où il ne comprend rien. Bon, il y a des amis qui l'accusent. Bon, ça pourrait vous arriver aussi. Hein. Et parce que dès qu'il y a un malheur, on est sûr que c'est du péché. Et puis Job, il dit, non, j'ai rien fait. Mais, si, c'est sûr, je cache pas, allez, dis la vérité, confesse. Hein, et puis voilà. Non, mais j'ai rien fait. Et puis, vous imaginez, vous avez peut-être été accusé injustement et vous savez ce que c'est. Mais quand il lit le dernier chapitre, il dit, j'avais entendu parler, mais maintenant j'ai vu. Il a dit, non mais dans cette épreuve, j'ai grandi. J'ai découvert quelque chose concernant Dieu. Cette femme aussi, elle passe par une épreuve terrible. Pour une maman, c'est terrible. Mais elle dit, avant, je te voyais comme un homme croyant. Mais maintenant, je te vois comme un homme en qui la parole, et c'est la parole de vérité. Et donc, elle grandit. Mais Job, il y a aussi grandi dans tout cela. Et c'est ça qu'on va retrouver dans le chapitre 18. C'est un homme qui pourra invoquer le feu qui descend du ciel. Mais ça ne vient pas comme ça. Il y a des gens qui disent, « Oh Seigneur, donne-moi la puissance de prier. » Puis ils disent, « Non, écoute, si tu demandes au Seigneur de t'apprendre à prier, compte sur des épreuves. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de former. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça, ça nous arrive. Il y en a qui l'ont pas. Non. Et après, il y en a qui essaient d'apprendre le vocabulaire des autres et de répéter les prières des autres. Parce que, ah ben lui, il a l'air d'avoir de la puissance dans sa prière, je vais prier comme lui. Et puis on multiplie les mots, mais non. Tu veux apprendre à prier ? Eh bien, compte sur l'épreuve. Parce que c'est comme ça que le Seigneur forme. Quand il prend l'argile, comme ça, il ne peut pas juste regarder à la mode d'argile et puis dire, écoute, voilà, transforme-toi. Il n'y arrivera rien. Il faut qu'il mette les mains, comme on dit à la pâte, hein, et Dieu met les mains et il commence à former, pression, nettoyer, il travaille pour en faire quelque chose. Et vous savez, c'est comme ça que ça prend la vie de prière, la relation de prière, la puissance dans la prière. Et alors, après cette formation, eh bien, comme j'ai dit, Élie pourra lancer un défi à Akab et dire, écoute, amène tes prophètes et moi je viens avec l'Éternel. Et on verra. On verra ça plus tard. Et vous savez, Élie était un homme de même nature que nous. Il a fait confiance au Seigneur, il a fait confiance à la parole, il a avancé, il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire, et le Seigneur l'a formé pour qu'il devienne un homme qui a pu prier avec instance. Et donc, on va terminer avec la lecture Jacques chapitre 5, voilà justement, mais les versets qui précèdent, hein, on a bien ce verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais commençons à lire au verset 15. On va commencer à 13 pour avoir tout le contexte, hein. Je ne vais pas développer cela, pas aujourd'hui, mais en tous les cas, je vais le lire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Regardez, la prière de la foi. Ce n'est pas le fait de dire des choses. C'est la prière de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Le Seigneur prend, hein, il commence avec moi, je ne suis qu'un homme pécheur, qui n'a connu que le péché. Mais je me suis placé entre ses mains. Je dis, Seigneur, par ton esprit, sers-toi de la parole, fais ton œuvre. Je sais que parfois ça te fera peut-être mal, parfois ce sera un peu difficile à comprendre, mais je te fais confiance. Et il fera son œuvre et dit, et puis vous arriverez à ce stade, la prière agissante du juste et d'une grande efficacité. Il n'y a pas de mystère, mais en même temps, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est l'œuvre de Dieu, c'est du vrai travail, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui peut faire ce travail. Et si Dieu a pu faire ça avec Élie dans l'Ancien Testament, imaginez ce qu'il peut faire dans le Nouveau Testament avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et maintenant que nous avons pas seulement les 5 livres de Moïse, mais nous avons tout le texte. Et donc, que le Seigneur nous aide. Un homme de même nature que nous. Et Dieu l'amène au point où il est prêt à lancer le défi contre le roi d'Israël. Et dit, on va voir qui est le vrai Dieu. Je ne sais pas où vous vous êtes vu dans tout cela, mais sachez que Dieu est prêt à aller jusqu'au bout. Et que ce soit, vous y dites, moi je voudrais qu'il me prenne et qu'il me mette déjà sur son tour. Parce que je veux être entre ses mains. Eh bien, dites Seigneur, je viens à toi, je te donne ma vie. Et après, lui dit, écoute, tu me donnes la permission de travailler ? Feu vert. Il me dit, bon, je m'y mets. Et Dieu fera son œuvre. et il emploie les méthodes qu'il choisit. Et ces méthodes sont différentes pour chacun. Vous pouvez pas, vous n'aurez rien comme quelqu'un d'autre. C'est très individuel. C'est ça que j'aime avec le Seigneur. C'est son travail est toujours personnalisé. Ça correspond à chacun. Il dit et sachez, il dit, Dieu est fidèle. Vous ne serez pas tenté ou éprouvé au-delà de vos forces. Il trouvera toujours un moyen d'en sortir. La preuve, le chapitre qu'on a lu aujourd'hui, vous avez chaque fois, ça a été. Et nous avons passé un moment de prière. Chacun se sente libre déjà devant le Seigneur, dans son cœur, de dire « Dieu, moi je me suis vu à peu près ici. » Et c'est de là que je veux partir avec toi aujourd'hui. Et puis après, je prierai.